France Culture. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, réalisé par Perret Legras. Noé Chaban en assure la technique et Avril Ventura la programmation et la page web, entre autres. Aujourd'hui, violence en milieu éducatif, violence, répétition des violences, violence sexuelle et indifférence des adultes, hier, mais aussi maintenant. Chère maman, juste en revenant à Riaumont, à peine rentrée, on me frappe avec une lanière en cuir de martinet. J'espère que Laurent va bien et que toi aussi. J'espère que nous allons revenir bientôt à la maison et j'espère que tu auras la maison bientôt. À bientôt. Je t'embrasse très fort. C'est une lettre d'un enfant qui espère, le verbe revient trois fois en quelques lignes, tout comme le mot bientôt, et ça dit tout. Bonjour Ixchel Delaporte.
Bonjour.
Cette lettre est en exergue de votre livre consacré aux enfants martyrs de Riaumont, livre qui est aussi un documentaire formidable, diffusé sur Arte, on peut encore le voir, je le conseille vivement à tous nos auditeurs. Riaumont, c'est un endroit très spécial, très fermé, mais qui permet de comprendre les logiques des violences physiques, sexuelles, morales et silencieuses qu'ont subies tant d'enfants, des violences dont la société semble davantage, mais difficilement, prendre conscience depuis que sont mises au jour les décennies de cauchemars des victimes de Bétarame.
Alexandre a voulu porter plainte. Il raconte qu'il a été victime à la fin des années 80 lors d'un camp scout animé par un surveillant de Notre-Dame de Bétarame, un homme qui travaille encore aujourd'hui dans l'établissement, un cauchemar aux yeux d'Alexandre.
J'ai bien peur que ça concerne beaucoup d'enfants. Si la personne est toujours en activité et que nous, les faits remontent à il y a une trentaine d'années, il est possible qu'il y ait d'autres victimes. Donc je leur demande s'il y en a de se manifester.
Toutes les plaintes ont été rassemblées et déposées à Pau par Alain Esquer. Il se présente comme le porte-parole des victimes de Bétarame.
Les enfants concernés, c'est des enfants de 8 à 14 ans qui vivent de véritables agressions sexuelles, des fellations et des pénétrations anales. L'affaire de Bétarame ne fait que commencer. Elle va montrer une monstruosité que nous avions au fin fond de notre Béarn. L'une des histoires de pédophilie les plus importantes de France sur les 50 dernières années.
L'une des histoires, parce que depuis qu'est mise au jour l'affaire de Bétarame, on entend parler de beaucoup de cas assez anciens, mais aussi plus récents de violences dans des établissements scolaires et des pensionnats. Ce qu'on entend aussi, c'est le silence assourdissant qui règne autour de ces violences. On va en discuter aujourd'hui avec trois invités. Ixchel Delaporte, je vous ai déjà salué. Vous êtes journaliste d'investigation et autrice de plusieurs enquêtes, dont Les enfants martyrs de Riaumont, publié aux éditions du Rouergue en 2022. Je l'ai dit, le documentaire est disponible sur Arte. Aude Loriot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour 20 minutes, autrice de Tableau noir, violence sexuelle entre enfants, le phénomène massif que l'école ne veut pas voir. Et ça sort chez Stock en avril 2025. Important aussi de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et avec nous également Elisabeth Lucet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS. Vous avez co-dirigé avec Isabelle Poutrin un dictionnaire collectif, le dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir, publié donc au PUF en 2022. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur l'histoire des violences faites aux enfants. D'où viennent-elles? On peut déjà se demander, puisqu'on parlait de Bétarame, qu'on parlait de Riaumont, ce sont des institutions catholiques, si ces violences sont connectées à la religion.
Alors avant de répondre à votre question, il faut tout d'abord dire que pendant longtemps, les châtiments corporels, sous la forme de coups, mais aussi d'enfermement, d'isolement, de privation, n'étaient pas considérés comme des violences. C'est-à-dire que n'étaient considérées comme des violences que le moment où celui qui détient les pouvoirs de correction sur l'enfant abuse, excède de ce pouvoir et excède un seuil dit raisonnable qui n'est jamais véritablement défini. Alors c'est le fait de faire couler le sang, c'est le fait de s'en prendre à des parties du corps qui ne sont pas les parties molles comme les fesses, le dos, mais le visage, et c'est le fait de mettre en danger la vie d'autrui. Donc ça, ces violences, en fait, elles n'ont pas été qualifiées de violences pendant très longtemps parce que les châtiments corporels étaient admis. Et le basculement majeur, c'est en France la loi de juillet 2019 qui qualifie tout châtiment corporel, tout châtiment, de violence. Alors pour répondre à votre question sur les rapports entre la violence et la religion, il faut savoir que l'association entre éduquer, enfin la violence et l'éducation, elle est assez consubstantielle à la façon dont on a conçu l'éducation, alors depuis l'Antiquité et puis le christianisme a rajouté certains éléments, à savoir que dans les sociétés anciennes, l'enfant est considéré comme un être irrationnel, un petit sauvage, dont il faut extirper les désirs, les pulsions. Et donc cette éducation, elle passe par un dressage, par une discipline à la fois du corps et de l'esprit. Et dans le christianisme, cette association entre éducation et violence est visible notamment dans des proverbes bibliques qui sont devenus des proverbes comme « qui aime bien, châtie bien », mais dans les proverbes de la Bible, il est question de « celui qui ménage sa baguette et son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger ». Donc on a cette association entre violence et amour. Aimer son enfant, c'est l'éduquer et ne pas hésiter à le corriger, c'est-à-dire à le dresser, à le redresser quand il prend un mauvais chemin.
Ce qui explique que les châtiments ont été longtemps acceptés. Alors c'est vrai qu'avant cette loi très tardive des années 90, le niveau de violence envers les enfants a baissé au cours du XXe siècle. Ce sont des évolutions de la société dont on va peut-être reparler. Quand on parle de cette vision de l'enfant, une vision d'un être à redresser, peut-être quelqu'un qui doit s'amender en général avant d'avoir fait quoi que ce soit, est-ce que vous avez l'impression qu'elle existe encore aujourd'hui, Aude Loriot ?
C'est ce que la psychanalyste Elisabeth Jungbrühl définit comme l'infantisme, c'est-à-dire c'est le fait, la croyance que les enfants appartiennent aux adultes et doivent être contrôlés, asservis ou supprimés pour servir les besoins des adultes. Et cet infantisme, il est diffus dans toute la société. C'est un regard très autoritaire, finalement. On vient de parler de la loi de 2019 sur qu'on appelle la loi contre les fessées, mais on a 40 ans de retard par rapport à la Suède. Enfin, c'est gigantesque, donc on est très loin d'une prise de conscience.
Voilà, la loi contre les violences éducatives en Suède, c'est 1979, et cette loi qu'on appelle loi anti-fessées, c'est plutôt une loi contre les violences éducatives ordinaires, qui peuvent être des violences morales aussi, de tous ordres. Xchel Delaporte, est-ce que pour vous, cette vision d'un enfant à redresser, à corriger a priori, elle imprègne des institutions comme celle de Riaumont? Alors on peut aussi décrire ce que c'est que cet endroit très spécial, très fermé sur lui-même, qui a scolarisé ou aussi accueilli des enfants dans un cadre non scolaire pendant des décennies.
Oui, oui, tout à fait. Riaumont a fait sienne la devise du redressement. C'est vraiment comme ça qu'il théorise la manière dont ils doivent élever des enfants, puisque des enfants leur ont été confiés tout petits, dès l'âge de 5 ou 6 ans, il y avait des enfants qui arrivaient à Riaumont. Riaumont, ça a été créé en 1960 par le père Albert Revet, qui était aumônier au lycée de Lens, et en fait, il a proposé une sorte de foyer clé en main où des enfants étaient adressés par les assistantes sociales ou par des juges pour enfants. Ce n'était pas forcément des enfants en situation de délinquance, c'était des enfants plutôt qui avaient des problèmes sociaux à la maison et dont les parents ne pouvaient pas s'occuper. Donc le mythe de l'enfant délinquant pour Riaumont, c'est assez faux, et c'est là-dessus d'ailleurs qu'aujourd'hui ils communiquent énormément en disant on avait des enfants difficiles donc il fallait bien les frapper, et donc acceptant donc au passage qu'ils les frappaient. Mais il se trouve quand même que c'était beaucoup des problématiques sociales avant tout qui atterrissaient à Riaumont. Et après évidemment le père Albert Revet avait une doctrine scout très étonnante. C'est pas le scoutisme comme on l'entend communément, c'est plutôt fabriquer des petits soldats du Christ et puis les dresser à la dure. Donc une éducation militariste et très idéologique aussi, puisqu'ils sont très proches de l'extrême droite. Donc c'était vraiment une sorte de packaging, quoi.
Mais cette vision très religieuse avec une acceptation vraiment très particulière, hein, de la religion politique, elle est très singulière. Comment expliquer qu'on confie des enfants du côté de l'aide sociale à l'enfance, qui est voilà, un service public, à ce genre d'institution?
Eh bien, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, il n'y avait pas à cette époque-là tant de foyers que ça pour accepter des fratries à des prix défiant toute concurrence. C'était un lieu qui était ouvert pour ça et il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, du coup, le père Albert Revet trouvait là une solution clé en main, finalement, pour les institutions publiques. Il n'y avait pas tant de portes de sortie, en fait, pour placer ces enfants-là. Et puis, alors on parle de cette histoire de c'était à l'époque, on frappait les enfants à l'époque. Alors, dans le cas de Riaumont, il se trouve que ça ne s'est jamais arrêté. Et que c'est assez cocasse qu'en 2019, ils étaient obligés de faire quitter les lieux aux la quarantaine d'enfants qu'ils avaient encore, parce que ce n'était plus tenable du point de vue de la justice, ce n'était plus tenable du point de vue du rectorat, mais quand même ça a duré des décennies entières, presque plus de 60 ans, pendant lesquels finalement toute une ville a accepté ce qui arrivait à ces enfants, donc des violences physiques inouïes en fait.
Que personne ne protège. Alors quand même, cette violence qui s'exerce dans des lieux éducatifs, elle pose la question de la violence dans le milieu familial. On a parlé de cette loi de 2019. Comment des parents acceptent que d'autres qu'eux battent leurs enfants dans un cadre scolaire? Elles acceptent finalement si facilement, alors pas tous les parents, mais pendant très longtemps et dans pas mal d'endroits. Elisabeth Lucet.
Alors, c'est à relier à ce qu'on appelle souvent le droit de correction. Hein, donc, ce sont toutes les violences, les contraintes physiques, psychologiques qui sont exercées sur les enfants par un détenteur de l'autorité. Alors, ce détenteur de l'autorité dans la famille, c'est le père, mais ça peut être aussi la mère, le frère aîné, etc. Et puis, il y a aussi toutes ces institutions qui reprennent le modèle familial, notamment l'école, l'internat, le monastère. Donc, et ce détenteur de l'autorité, pendant très longtemps, qui incarne le pater familias, il a des pouvoirs de correction, il a le devoir de corriger et de redresser tous ceux qui sont placés sous sa domination et son pouvoir. Donc ça inclut à la fois les enfants, mais aussi son épouse. Et cette violence, elle est légitimée par le fait qu'il faut, corriger, il faut redresser, il faut s'assurer que les personnes qui sont sous l'autorité de ce pater familias sont sur le droit chemin. Et cette violence, elle est aussi acceptée par l'ensemble de la société. On attend des chefs de famille qu'ils fassent régner l'ordre dans leur famille, avec un système qui va où les pères de famille marchent main dans la main avec les autorités publiques et les autorités ecclésiastiques, à savoir que dans le foyer, le père, compris au sens au-delà de biologique, hein, ça peut être la mère, etc., j'insiste, doit faire régner l'ordre. Et ensuite, les autorités ecclésiastiques et étatiques s'appuient sur ce père de famille pour faire régner l'ordre social. Donc ce droit de correction, il perdure parce qu'il est légitimé socialement. On attend des pères de famille qu'ils corrigent leurs enfants. Et puis ce droit de correction, il circule, c'est-à-dire que les individus dans une famille, ils sont en position de corriger, mais ils ont eux-mêmes ou ils sont eux-mêmes corrigés. Hein. C'est le cas des enfants qui sont corrigés, mais qui, quand ils grandissent, on attend aussi d'eux qu'ils corrigent. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que on a une circulation de cette idée que pour que la société et l'ordre règnent, il faut que l'ordre règne dans les familles. Et à l'école, eh bien, les parents, pendant longtemps, en fait, ont délégué leur autorité aux maître d'école. En anglais, dans le droit anglais, on appelle ça in loco parentis. En fait, les enseignants en fait, sont des parents, des délégués des parents et représentent l'autorité des parents au sein de l'école.
Dans une logique tout à fait admise, pendant des décennies, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Les Pieds sur Terre. On part en Bretagne.
Tous étaient plus méchants les uns que les autres. Quand on devait réciter nos poésies, moi, j'avais toujours ce mal à me concentrer. Et à chaque fois, on me faisait venir à genoux à l'estrade. Et on était comme ça une dizaine sur 60. Hein. Et une fois qu'il avait interrogé plusieurs élèves, il revenait vers nous, il nous faisait lever. Et là, il nous passait à tabac. Et chacun les uns après les autres. J'ai jamais vu s'il y prenait du plaisir parce que je fermais les yeux. Ça faisait mal. Et c'était presque tous les jours comme ça. Il y en a qui étaient... J'étais un peu jaloux de certains qui n'étaient jamais inquiétés. Puisque j'étais l'un des plus mauvais, donc j'ai été l'un de ceux qui a ramassé le plus. Et comme j'étais toujours dans les derniers, Je pensais que finalement je le méritais aussi. Et j'ai même pas pensé une seule fois me dire mais dans les autres écoles ça peut pas être pareil. Et donc ça m'a poursuivi toute ma vie en fait, puisqu'on me disait que j'étais idiot pendant 5 ans. Quand on vous dit que vous êtes idiot, quand vous sortez de là, vous êtes obligé d'admettre que vous êtes idiot.
Les bagnards de Kerors, diffusés donc le 30 mars 2025. On était dans les années 70 au collège Saint-Pierre de Relecq-Kerrion dans le Finistère. Cette violence, elle est très normalisée d'une certaine manière par les enfants qui la subissent. Est-ce qu'elle participe d'un certain ordre social, Elisabeth Lucet?
Alors cette violence, effectivement, elle n'est pas perçue forcément comme une violence, elle est perçue comme quelque chose de normal, et c'est ce que Alice Miller a appelé la pédagogie noire. Alors, pour revenir sur l'histoire de la pédagogie noire, dans les années 70, au moment où la pédopsychiatrie, la psychologie s'intéresse aux effets des châtiments et des violences sur les enfants, il y a aussi des moments de prise de conscience parce qu'on se rend compte des choses à partir des expertises. Donc, on a une pédagogue qui s'appelle Catherine Rochki qui a compilé dans les manuels du 18e et du 19e siècle la façon dont on disait qu'il fallait éduquer les enfants et qu'elle a appelé un livre sur la pédagogie noire où elle montre comment tous les pédagogues expliquent que l'enfant est un être pulsionnel dont il faut extirper les pulsions et qu'il faut inculquer l'obéissance absolue, la soumission à la loi, pour en faire des êtres justes et vertueux. Et en lisant ce livre donc, de Katharina Rüschki, Alice Miller, qui est une psychiatre, va écrire un ouvrage qui s'appelle « C'est pour ton bien, les racines de la violence dans l'éducation des enfants », où elle montre comment cette violence qui est continuelle, massive envers les enfants, et tout en se parant cette violence d'un discours d'amour et de sacralité, c'est pour ton bien, eh bien empêche les enfants de comprendre qu'ils sont des victimes, et donc ces enfants retournent la culpabilité sur eux, c'est-à-dire ils sont incapables de se retourner contre leurs parents ou contre ceux qui exercent des violences sur eux. Et elle explique que ça, cette éducation toxique, elle va entraîner un cycle de violence parce que ces enfants reproduisent les violences sur leurs enfants et elle en fait une des racines des régimes totalitaires parce que cette obéissance absolue, c'est la racine des régimes totalitaires. Et elle montre comment Freud, en insistant sur les pulsions de l'enfant, empêche de penser les méfaits des châtiments corporels sur le psychisme de l'enfant. Et c'est une des inspiratrices du mouvement militant sur les violences éducatives ordinaires. C'est en fait penser le caractère massif et délétère de ces violences au-delà de la maltraitance infantile.
Et c'est vrai qu'il y a tellement d'empêchements de penser à travers ces images, ces représentations de l'enfant, y compris véhiculées par la psychanalyse. Cette affaire de domination, elle m'intéresse à plusieurs titres, parce que c'est la domination des adultes sur les enfants, mais évidemment la domination à travers un certain ordre social qu'on retrouve aussi dans ces institutions scolaires.
J'avais un père alcoolique, une mère alcoolique, donc c'était difficile à la maison, on recevait des coups, un père violent aussi. Donc, aussi bien avec la mère qu'avec nous. Alors mes parents et le juge ont décidé de me placer au village Rio.
À la maison, on n'avait pas toujours à manger. On mangeait ce qu'il y avait. Parfois, ça nous arrivait de manger que des pâtes à l'eau ou des pommes de terre à l'eau. La viande, on connaissait pas. Mon beau-père a dû partir. Et puis, ma mère s'est retrouvée seule à élever ses enfants. Elle nous a un petit peu délaissés. Et puis là, les assistants sociaux sont intervenus. Et on a été placés.
Alors, Ixchel de la Porte, on entend un extrait de votre documentaire « Les enfants martyrs » de Riomont. On a parlé de la logique du placement et des enfants qui sont livrés aussi à eux-mêmes, peu protégés par des parents incapables finalement de le faire. Mais ce sont aussi des enfants qui sont tout en bas de l'échelle sociale. Et dans votre documentaire, c'est très intéressant, on entend aussi des parents qui témoignent des années après et qui pensaient quand même que c'était pour le bien de leur enfant, mais qui aussi, on le voit, sont eux dédominés. Alors, comment vous lisez cette double logique à la fois sur les enfants et sur leurs parents?
C'est-à-dire que dans le cas de Riaumont, on a affaire à une institution qui a une grande autorité dans la région. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre après avoir beaucoup lu des archives et puis avoir interrogé aussi des parents. C'est-à-dire que, en fait, c'est très prestigieux d'aller à Riaumont. C'est-à-dire que nous, notre point de vue, on se dit « mais c'est terrible, comment les parents ont pu laisser leurs enfants dans cette situation ?» En fait, non, non, pas du tout, parce que c'était considéré comme un lieu où les enfants allaient avoir une très bonne éducation, où les enfants allaient avoir même un savoir-être, un savoir-vivre, quoi. C'est-à-dire les bonnes manières, la bonne société, les bons codes, et être en lien avec des prêtres très respectés et... Donc c'est tout un imaginaire finalement qu'on leur a vendu à ses parents.
Ça colle assez bien avec ce qu'on a entendu sur le pensionnat de Bétarame, une institution respectée où une bonne, entre guillemets, autorité s'exerce sur les enfants par des gens respectables. Et là aussi, on l'a lu dans des articles, avec certains enfants plus maltraités que d'autres parce qu'appartenant à des familles considérées comme ayant moins de valeur, je ne sais pas comment le dire, je ne m'inscris pas dans ce genre de représentation, et qu'il y avait une échelle sociale dans ce genre d'institution.
Ah oui, oui, c'était deux poids, deux mesures. Je pense qu'il y a des enfants qui étaient plus ou moins protégés, et puis je pense aussi que quand vous avez affaire à des gens qui considèrent que frapper, violenter, violer des enfants. Quand on fait ça, en fait, on repère très très vite aussi la fragilité des enfants qu'on a en face. C'est-à-dire qu'on peut pas faire ça à tout le monde. On trie, on fait un tri, et c'est ça le propre des prédateurs sexuels aussi, hein, c'est de savoir à qui on s'attaque et à quel profil familial on a affaire et avec lequel on va vraiment avoir les coups des franches, si j'ose dire.
Mais cette histoire de finalement faire le tri entre des enfants sur lesquels on peut davantage exercer de la violence, est-ce que on le retrouve dans des textes, des archives que vous auriez pu consulter, que vous auriez pu connaître, Elisabeth Lucet?
Alors, je pense qu'il faut qu'on replacer ce qu'on dit sur Riaumont et sur le mythe de l'enfance délinquante, l'idée qu'on aurait placé là des gens. Bon, alors quand on regarde l'histoire des maisons de correction, parce qu'en fait ça s'inscrit dans une histoire, en fait, à partir de la fin du 19e siècle, on a tout un mouvement de mobilisation autour de la figure de l'enfant martyr, avec des affaires retentissantes, hein, le petit Grégoire qui est retrouvé mort sous le porche d'une église et dont on découvre que c'est le père qui a mis fin à ses jours. On a une mobilisation avec le vote de deux lois en 1889 et en 1898 sur les maltraitances infantiles. Mais ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que ces lois sur les sévices faites aux enfants et les maltraitances, elles visent d'abord les catégories sociales populaires, avec l'idée qu'il faut retirer ces enfants de leurs parents qui sont défaillants, alcooliques. C'est l'image du père alcoolique, toutes ces une des du petit journal avec des enfants décharnés. Et donc c'est l'idée que l'État doit se substituer à des parents défaillants pour sortir ces enfants donc de ces familles dysfonctionnelles et leur donner un cadre de vie qui serait meilleur. Et donc on invente ce qu'on appelle les maisons de correction avec deux modèles. Alors il y a le modèle de la prison cellulaire, c'est la petite roquette où les enfants de 6 à 21 ans sont enfermés jour et nuit. Et puis le modèle qui au départ est une utopie de la colonie agricole, la Maitrée, c'est-à-dire on va amender les enfants par la terre, on va les sortir du milieu urbain qui est conçu comme un milieu dangereux. Et dans ces maisons de correction, en fait, on a toutes les techniques de discipline et de coercition qui sont mises ensemble. On est à la fois dans le collège, on est à la fois dans l'armée, on est à la fois dans le monastère, hein, avec un emploi du temps, on lève le drapeau chaque matin, etc. Et c'est une utopie au départ, l'idée c'est vraiment de sortir ces enfants de leur famille dysfonctionnelle pour bien les éduquer. Et en fait, très vite, ces institutions, en fait, elles vont elles-mêmes être génératrices de violences, avec de grands scandales sur ces bagnes d'enfants, qu'on voit notamment dans les 400 coups de Truffaut.
Et c'est ce que raconte Serge Chalandon dans le livre L'Enragé consacré à la colonie pénitentiaire de Belle-Île, hein, pour enfants, avec une violence extrême. Violence dont on s'aperçoit qu'elle devient très rapidement sexuelle. Et ça, ça pose aussi question, c'est un glissement qui m'interroge. Vous en parlez, Excel Delaporte, dans votre documentaire. On va passer à un deuxième extrait.
Riaumont, en fait, prenait les enfants fragiles comme nous pour en faire des objets sexuels.
Entre 12 et 13 ans, j'ai été violé de manière répétitive.
Ils ont tout bousillé dans ma vie, quoi. Ils ont tout bousillé dans ma vie.
Alors comment des violences éducatives qui sont justifiées par le « c'est pour ton bien » se transforment en violences sexuelles ? Est-ce que c'est une mécanique qu'on arrive non pas à comprendre mais à s'expliquer ? Xchel Delaporte.
Mais je pense que de toute façon, tout lieu fermé est problématique. C'est-à-dire se dire qu'on a des adultes, a fortiori ici à Riaumont, des hommes qui s'occupent d'enfants dans un milieu fermé où il n'y a pas vraiment d'œil extérieur, où il n'y a pas vraiment de gens qui peuvent venir faire des contrôles ou voir comment vont les enfants. C'est des lieux qui sont propices pour les violences sexuelles parce que pour moi il y a un continuum entre c'est la domination des corps en fait. Vous dominez le corps d'un enfant, vous dominez son esprit, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est vrai que Riaumont, on est dans un niveau extrême parce que ils ont fait vraiment quelque chose de total. C'est-à-dire les enfants n'étaient pas étaient des objets sexuels pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup, et ils étaient aussi utilisés comme de la main-d'œuvre gratuite. C'est-à-dire que c'est les enfants de Riaumont qui ont construit ce village de Riaumont. Au lieu de faire du sport, au lieu de faire leurs devoirs, ils faisaient du béton, ils construisaient un lieu. Et tout ça, on arrivait à le transformer en disant, ben oui, mais comme ça, ils vont s'endurcir et puis ils vont comprendre c'est quoi le travail. Mais en fait, ils portaient des blocs entiers de pierres extrêmement lourdes, ils faisaient du béton. Enfin, c'est pas des choses qu'on fait à 6, 7, 8 ans. Enfin, et ça, ils ont continué jusqu'en 2013 à faire travailler les enfants. Donc, pour moi, il y a vraiment un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, quand vous avez des prédateurs sexuels, eh ben, ils vont vers ces lieux fermés où ils savent qu'ils vont pouvoir, en toute impunité, agresser et violer des enfants et donc assouvir leur perversion, en fait.
Elisabeth Lucet, Pio de Lorio. Parce que la sexualité, le fait de s'en prendre sexuellement aux enfants, ça ne fait pas partie du répertoire des punitions acceptées.
Non, alors c'est pas l'objet du livre.
Voilà, et après, ce
dictionnaire du fouet et de la fessée. Ce qu'ont montré les études menées dans le cadre de la CIAD, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, et notamment les sociologues qui ont travaillé avec des enquêtes massives sur les témoignages des victimes de violences sexuelles, c'est que il y a davantage de violences sexuelles sur mineurs commises dans l'Église catholique que dans le sport ou dans l'éducation nationale, parce qu'on entend souvent en fait que ce serait pareil partout. En fait, ce qu'ont montré ces enquêtes, qui encore une fois portent sur un nombre très important de victimes, c'est que le seul secteur où il y a encore plus de violences sexuelles, c'est le cadre familial, mais que dans l'Église catholique et les institutions de l'Église catholique, il y a énormément de victimes. Pourquoi ? Alors, parmi les facteurs qu'ont identifiés notamment les sociologues, il y a tout d'abord la culture cléricale, avec la culture de l'obéissance absolue au clergé, avec un monde qui exclut globalement les femmes, la sacralisation de la figure du prêtre, qui rend extrêmement difficile pour les victimes de parler et pour leur famille de dénoncer les faits par rapport à des personnes qui paraissent intouchables, parce que on ne peut pas mettre en cause la parole du prêtre. Et puis enfin, et c'est ce que disait Xel tout à l'heure, c'est que les clercs enseignants ont accès à un grand nombre d'enfants hors de toute surveillance dans le cadre des internats et catholiques. Ce sont des lieux fermés où, effectivement, les prédateurs sexuels avaient le champ libre parce que ce sont des institutions privées et non pas publiques qui étaient beaucoup moins contrôlées que d'autres institutions.
Avec des parents qui ont donné une délégation éducative.
Voilà, avec des parents qui,
en confiance.
Qui, compte tenu du magistère moral exercé par l'Église, ne peuvent pas imaginer maltraiter leurs enfants en confiant leurs enfants à ces institutions.
Ou peut-être qui minimisent aussi la portée de ces actes.
Oui, alors sans doute, parce que c'est ce que je disais en fait, la figure du prêtre rend impossible à la fois la parole des victimes et le fait de l'entendre. Et puis à cela s'ajoute encore une dernière chose, c'est la morale sexuelle de l'Église, c'est-à-dire dans un milieu où on ne parle pas de sexualité, c'est extrêmement difficile pour les enfants de comprendre les notions de consentement et de non-consentement puisqu'on ne parle pas de la sexualité.
Aude Loriot.
Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense aussi, c'est que la violence sexuelle, c'est d'abord une violence. Quand on parle de violence sexuelle, on entend sexuelle, mais c'est d'abord une violence qui vise à asservir, à dominer, réellement, mettre au pas. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi très récurrent dans les témoignages qui ont été envoyés à la CIAZ. Et aussi, je pense que les prédateurs, ils s'en prennent aux proies les plus fragiles, donc les enfants qui vont être moins susceptibles de parler, de se rebeller. Et aujourd'hui, on parlait de Réaumont, mais dans l'ASE actuelle, dans l'aide sociale à l'enfance, il y a énormément de violences sexuelles, il y a énormément de violences tout court. Et il y a eu, quand on disait que les enfants de Réaumont, on les envoyait là parce que finalement il n'y avait pas tellement d'autres établissements. C'est, aujourd'hui encore, c'est ce qui se passe. Le procès de Châteauroux l'a bien montré. En fait, ce sont des enfants qui ont été mis dans des pseudo-familles d'accueil, pseudo-fermes pédagogiques, qui en fin de compte se trouvaient un simple pavillon avec un champ à côté. Et ces enfants-là, ils ont été complètement soumis non seulement à de l'exploitation, des violences sexuelles, des violences physiques. Et en fait, ce que disent les gens de l'aide sociale à l'enfance, c'est « bah oui, mais ils nous les prenaient ». Personne d'autre ne voulait, donc ils nous les prenaient. En fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une moindre considération qu'on a pour ces enfants. On sait qu'ils se rebelleront moins, et donc on se dit, on les met là-bas, tant pis. En fait, il y a un peu quand même cette idée-là derrière.
Et d'ailleurs, quand il n'y a pas de famille pour accueillir les enfants et que des mineurs se retrouvent dans des hôtels, on voit là aussi qu'ils deviennent la cible de prédateurs sexuels parce qu'ils n'ont pas les moyens de subsister, parce qu'ils ne sont pas surveillés, ils se déscolarisent et il n'y a plus d'éducation du tout. Donc ça devient encore une autre forme de violence. Alors ce qui m'intéresse aussi, Aude Loriot, dans votre ouvrage, Tableau noir, violence sexuelle entre enfants, le phénomène massif que l'école ne veut pas voir, c'est publié chez Stock, et si on en parle, c'est parce qu'il y a cette idée de silence qui revient bien finalement tout le temps quand on parle des violences éducatives. Alors là, ce sont des violences entre enfants et en même temps, on revient sur la même silenciation, c'est-à-dire soit les gens ne peuvent pas parler, soit ils parlent, mais on les écoute pas.
Exactement. Il y a la même logique de silenciation avec en plus cette idée que comme ce sont des enfants, on minimise, on ramène ça à des jeux sexuels. On dit c'est du touche-pipi. Moi, c'est dans la dizaine de cas que j'ai réellement investigué en profondeur. C'est vraiment, ça revient presque à chaque fois. On dit mais voyons, ils s'amusaient. Enfin, vraiment, on ne considère pas ça comme de la violence et des violences sexuelles.
Et cette histoire du silence, elle est très ancienne aussi. Alors on le voit pour Réaumont, on l'a vu pour Bétaram. On a entendu cette enseignante, Françoise Gulong, qui a témoigné dans la commission parlementaire, mais qui avait témoigné devant des médias, puis à l'époque, qui avait sonné l'alerte. Et puis finalement, elle a été un peu mise au banc de son institution, pas écoutée. On ne peut pas parler. Et en face, il y a des gens qui répondent. Si, il suffit d'aller porter plainte, il faut en parler aux autorités. Et ça met les victimes ou ceux qui cherchent à dénoncer les faits dans une sorte de corner dont on peut absolument pas sortir, parce qu'on dit parler, quand on parle, personne n'écoute. Aude Loriot ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, dans les cas que j'ai investigués, il y a des parents qui subissent des représailles. C'est-à-dire que quand ils dénoncent les violences qu'ont subies leurs enfants, ils se prennent des enquêtes sociales sur le dos, avec cette peur qu'on leur retire leurs enfants.
Ça, c'est maintenant, c'est dans les écoles publiques, quand il y a des affaires entre enfants.
Aujourd'hui, voilà. Et clairement, à une famille que j'ai interviewée, l'assistante sociale lui dit, vous êtes allé témoigner dans les médias, donc c'est pour ça qu'il y a une enquête sociale. On leur dit, en fait, carrément, quoi. Il y a une autre famille, en fait, qui...
On peut redire une enquête sociale.
Alors, l'enquête...
expliquer en quoi ça consiste.
Alors, une enquête sociale, c'est qu'on va envoyer des enquêteurs de l'aide sociale à l'enfance dans les familles pour essayer de voir, en fait, si tout va bien, s'il y a de la violence, etc. Et donc, les parents qui à qui, en fait, on alors qu'ils dénoncent des violences, on leur envoie des enquêteurs de l'aide sociale à l'enfance, se disent, plutôt des services départementaux, se disent « Ah on risque de me retirer mes enfants ». Voilà. Et donc il y a une autre famille aussi qui témoigne, et à qui c'était une maman qui avait un projet dans l'école, et après avoir lancé une alerte sur sa fille, on lui retire son projet. Donc il y a véritablement des formes de représailles aussi pour les lanceurs d'alerte, y compris au l'éducation nationale.
Aujourd'hui et maintenant, on le redit, quand on parle de accuser finalement ceux qui sonnent l'alerte, ça a nous remémore aussi des cas qui ont pu être plus ou moins rendus publics dans l'Église. Et je me tourne vers vous, Elisabeth, tu sais, parce que c'est le sujet dont vous êtes spécialiste. En parler, c'est quand même être l'oiseau de mauvaise augure. Porter le problème sur la place publique, c'est s'exposer à une exclusion possible, voire plus. Et ça freine quand même. Et ça continue.
Ça a à voir avec la conception qu'a l'institution ecclésiastique, l'Église, avec un grand E, du scandale. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, l'Église a considéré qu'il valait mieux, quand il y avait donc des problèmes de violence et d'abus sexuels, faire taire les victimes et exfiltrer la personne incriminée, en la changeant de paroisse, de diocèse, plutôt que de publiciser les faits, parce que publiciser les faits, rendre public les faits, ça a des effets encore plus délétères sur les fidèles et les croyants. C'est l'idée qu'il vaut mieux une victime à qui on dit « bon, on t'a écouté, etc., mais maintenant tais-toi », plutôt que quelque chose de public qui va en fait détourner les fidèles de l'Église. Et ça, c'est une logique qui existe depuis le Moyen-Âge. Quand on a des prêtres déviants, on préfère taire, on ne publicise pas les fautes pour éviter de détourner les fidèles. Et ça rentre aujourd'hui en total conflit avec la façon dont on pense aujourd'hui les droits de l'enfant et les droits en fait de ceux qui sont placés sous la domination des autres.
Mais c'est intéressant parce que on peut tout à fait faire le rapprochement avec l'enquête d'Aude Loriot, c'est-à-dire pas faire de publicité aux faits pour pas détourner les gens. Alors non pas de l'Église, mais de l'école, c'est quand même fou. Comment vous entendez cette logique résonner aujourd'hui et maintenant dans des cadres qui n'ont pas grand-chose à voir avec la religion et les institutions religieuses?
C'est une question compliquée.
Aude, Loriot.
En fait, c'est un concept très large qui est applicable à toute la société. C'est une forme d'autocensure institutionnelle, c'est-à-dire dans chaque institution, mais encore plus dans les institutions qui sont très fermées et très opaques. On se protège, et donc au sein de l'éducation nationale, si on dénonce des violences auxquelles on assiste entre enfants, on risque de nous reprocher le défaut de surveillance. En même temps, si on se tait, on risque aussi de nous le reprocher. Donc en général, ils sont face à une sorte de dilemme et très souvent, ils ne font rien. Dans 60% des cas, un enfant qui se confie à un professionnel n'est pas entendu, il n'y a aucune action. Donc l'inaction, elle est massive.
Je veux bien rebondir là-dessus. Oui, c'est intéressant parce que dans le cas des enfants de Riaumont, donc ça a duré 60 ans, donc il y en a quand même des milliers en fait qui sont passés par cette institution, y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient alerté, mais même dans les années 70, dit à des éducateurs, dit à des assistantes sociales, il y a des enquêteurs qui sont venus, il y a toujours cette impossibilité d'entendre la parole des enfants, en la minimisant, en disant, renvoyant la faute sur eux, en disant, mais c'est parce que peut-être que tu l'as bien cherché, peut-être que, en fait, tu as provoqué ce geste, qu'est-ce qui me prouve que c'est pas toi qui a tout déclenché? Et donc, la parole toujours sans cesse d'évaluer et diminuer des enfants fait que en face on a du côté des prédateurs des gens qui se sentent dans une impunité totale, et cette impunité totale elle est incroyable parce qu'elle est toujours valable encore aujourd'hui à Riaumont, c'est-à-dire que vous avez maintenant une libération de la parole d'anciens qui parlent, de toutes les générations confondues, et quand ils disent qu'ils ont été agressés sexuellement, ce qu'on leur répond c'est vous êtes des menteurs en fait. Donc même quand il y a une libération de la parole et que les gens, même adultes, ils reprennent la main sur ce qui leur est arrivé, c'est pas entendu, quoi, aujourd'hui, encore, en fait.
Et cette construction de l'impunité, elle est complètement au centre de votre ouvrage, Aude Loriot, parce que quand on s'intéresse aux violences sexuelles entre enfants et à l'absence de réaction, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des auteurs de violences qui doivent plus ou moins eux-mêmes être victimes. Très souvent, on imagine, de faits de violence sexuelle chez eux ou ailleurs pour les reproduire sur d'autres enfants, ces auteurs, rien ne leur arrive. Même à la limite, on leur en parle même pas. Déjà, on peut revenir sur un point important, c'est l'occurrence de ces problèmes. Enfin, problème, c'est un euphémisme. De ces actes, ces violences entre enfants à caractère sexuel. C'est vrai que on ne s'attend pas à ce qui, en lisant votre livre, à entendre parler d'autant de faits et d'une forme de régularité même de ces questions.
c'est massif et c'est, ça n'est pas dit. Moi, c'est vrai que j'étais complètement...
Massif, ça veut dire
combien? Alors, massif, ça veut dire, moi, selon les calculs que j'ai faits, mais qui extrapolent des données de l'éducation nationale, de l'enquête harcèlement de 2023, des enquêtes de climat scolaire menées depuis des années, de l'enquête de Debarbieux, Éric Debarbieux, de l'Observatoire européen de la violence scolaire de 2018. Donc, tout ça, c'est concordant. Il y a à peu près, et c'est au bas mot, 600 000, 560 000 écoliers et écolières qui témoignent de formes d'agression sexuelle, c'est-à-dire baisers forcés, attouchement du corps. Et si on inclut lycée et collège, on est à quasiment 800 000 élèves qui le disent dans des enquêtes multipliées, publiées pardon, par le ministère de l'Éducation nationale. Et figurez-vous que quand cette enquête est sortie publiquement, il n'y a pas eu moi, je n'ai pas trouvé un seul article sur le sujet. Je veux dire, c'est pour dire l'ampleur du déni.
On n'en parle pas, par exemple, dans toutes ces campagnes contre le harcèlement scolaire?
Mais il y a eu plein d'articles qui sont sortis sur le harcèlement, mais tous ces chiffres qui portent sur des agressions sexuelles ne sont pas sortis, en fait. Il y a eu aucun... Enfin, moi, je n'ai vu aucun média qui a titré là-dessus, sur ces violences sexuelles-là. Et pourtant, c'est clairement dans les enquêtes. Donc, c'est pour dire l'ampleur du déni. Et d'ailleurs, le fait que ça soit dans l'enquête harcèlement et que ça ne soit pas mesuré ailleurs est aussi une des formes du déni. Puisque moi, il y a plusieurs personnes qui sont devenues adultes aujourd'hui que j'interroge, qui, il y a 10 ans, quand je les avais interrogées, me parlaient de harcèlement. Et aujourd'hui, quand je les ai réinterrogées, me disent... Ah bah non, oui, c'était des agressions sexuelles. Ah bah oui, il m'a touchée, etc. Mais même les personnes elles-mêmes le conscientisent comme du harcèlement. Parce qu'en fait, les violences sexuelles sont rabattues sur le harcèlement. C'est une des formes de minimisation très classique, c'est-à-dire le viol, on appelle ça une agression sexuelle, qui est la catégorie pénale en dessous. L'agression sexuelle, on appelle ça très souvent du harcèlement, qui est la catégorie pénale en dessous. Et ainsi de suite, en fait. On rabat le viol sur le harcèlement.
Qu'est-ce que ça dit pour vous de, à la fois, notre morale sexuelle commune, les tabous de la société, mais aussi l'éducation nationale, Aude Loriot?
Qu'est-ce que ça dit de notre morale commune et de l'éducation nationale? Alors, je pense que ça dit surtout qu'on n'a pas pris la mesure de ce que c'est. Déjà, au global des violences sexuelles, il y a eu une révolution dans les années 80, mais qui portait plutôt sur l'inceste et les violences des adultes sur les enfants. À ce moment-là, faut le dire, puisque il y a eu 44 fois plus de condamnations à l'époque d'auteurs de violences sexuelles. Donc, il y a eu un vrai boom dans les années 80. Ensuite, on a revécu avec MeToo une deuxième forme de vague. Mais il y a aussi, entre les deux, la conscientisation du harcèlement scolaire. Donc, on a conscientisé les violences sexuelles des adultes sur les enfants. On a conscientisé les violences entre enfants, mais qui sont de l'ordre du harcèlement. Mais pas encore la jointure entre les deux, les violences sexuelles entre enfants. Ça, c'est pas du tout encore conscientisé. L'inceste frère-sœur, on en parle absolument pas, alors que le frère est le premier agresseur des garçons, et ça n'a fait qu'une demi-page dans le rapport de la Civise. Je respecte énormément le rapport de la Civise, mais cette partie-là des violences entre enfants n'est pas du tout dite, alors que c'est massif.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Vous écoutez Être et savoir. Nous parlons des violences éducatives et plus globalement des violences subies par les enfants dont un certain nombre à caractère sexuel. On s'intéresse à la manière dont cette question est aujourd'hui considérée et prise en compte par la société. Progresse-t-on ou non? Finalement, depuis 1924, depuis la première déclaration des droits de l'enfant à Genève, il y a cette idée que l'enfant a le droit d'être écouté. C'est réitéré évidemment dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Et ça paraît être finalement l'article le plus compliqué. Écouter les enfants, on dirait que ça se heurte à une tradition éducative où tout va vers l'idée que non, justement, on n'écoute pas les enfants. Elisabeth Lucet.
Dans le livre Dictionnaire du fouet et de la fessée, l'article sur les droits de l'enfant se termine sur les propos qu'a essuyé Greta Thunberg lorsqu'elle s'exprimait. Et on a eu de nombreuses personnes qui ont dit « mais bon, c'est une enfant, hein, qu'elle retourne dans sa maison et qu'elle arrête de parler.
Y compris donc, la France Culture.
Voilà. Donc là, on voit comment, effectivement, prendre en compte les droits de l'enfant, les droits des enfants, des enfants qui n'ont pas de voix, en fait, de tous les êtres dominés qui sont sans voix, ça prend du temps. Et effectivement, ce sont des jalons au fur et à mesure. Hein. Les enfants martyrs, on en parlait dès le 19e siècle. À chaque fois, en fait, on a des mobilisations de l'opinion, de la presse, qui contribuent à faire avancer la loi. Et donc, les choses vont de pair. Hein. La Convention internationale des droits de l'enfant, c'est ce qui a permis à la Cour européenne des droits de l'homme, ensuite, de pouvoir recevoir des plaintes de parents contre des institutions scolaires qui maltraitaient leurs enfants, ou des plaintes d'enfants contre leurs parents. En fait, c'est par le biais de cette lente écriture du droit que progressent lentement les droits de l'enfant et la prise en compte de leurs paroles.
En tout cas, dans les textes. Alors évidemment, vous parlez de moments de prise de conscience collective sous le coup de l'émotion. Et je me demande si cette émotion, elle nous aide ou non à avancer vraiment, à réfléchir, parce qu'il y a une forme de choc. Et c'est ce qui se passe avec Betaram. C'est ce qui se passe quand on regarde votre documentaire, Échelle de la Porte. Et puis, ce choc peut provoquer peut-être des réactions paradoxales, comme l'envie de plus trop y penser. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé ?
Oui, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, ça va chercher dans de l'émotionnel. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se passe depuis Betaram, d'inédit. Que c'est la première fois qu'il y a autant d'anciens enfants, j'ai envie de dire, qui sont des adultes aujourd'hui, qui assument, qui prennent la parole. Moi, je sais que ça a été pas évident, en fait, entre le moment où j'ai écrit le livre et j'ai fait le documentaire, pour que ces hommes-là décident de parler à visage découvert, parce que c'est des hommes, et des violences sexuelles sur des hommes, c'est pas évident, en fait, pour des garçons, d'assumer ça de manière médiatique. C'est une grande honte, et il y a cette chape de honte qui est encore très prégnante, mais je trouve quand même de moins en moins, j'ai l'impression que cette histoire de honte qui change de camp, elle est en train réellement de se mettre en place, et que c'est une lame de fond qui est en train d'arriver là maintenant.
Mais parce que ce sont, vous l'avez bien dit, hein, des hommes, donc des gens perçus comme forts, qui prennent la parole, on va davantage les écouter pour tous les enfants et les femmes, y compris victimes de violences dans leur enfance. Puis on sait que c'est un continuum, que ça multiplie les chances d'être victime de violences à l'âge adulte. C'est pas systématique, mais c'est repéré.
Ah oui, absolument, absolument. Et dans le cas de Riomont, je pense qu'on n'a pas encore tout découvert sur les violences qui ont été exercées contre des filles, contre des louvettes, puisque dans mon documentaire, j'ai une louvette qui témoigne, mais je suis persuadée qu'elles sont très nombreuses derrière elles. Il y a une armée de filles qui ont été abusées, certainement, probablement, à Riomont, dont on va découvrir progressivement les effets, ouais.
Ce qu'on constate, c'est que le nombre d'affaires qui éclatent augmente et que on en apprend toutes les semaines de nouvelles. On peut saluer le travail de ici à Radio France, les antennes locales qui font remonter beaucoup de cas, beaucoup de témoignages. Dans cette émission, on s'intéresse à l'éducation. Alors, quel message éducatif on envoie au-delà de celui de « on n'écoute pas les enfants » quand on ne prend pas en compte à la fois la parole, mais tout simplement les faits qui sont dénoncés. On l'a dit, Aude-Loriot, il y a des auteurs d'agressions qui sont sûrement eux-mêmes des victimes, qui sont quand même laissés livrés à eux-mêmes. Et pour les victimes, les parents s'en occupent. Mais pour les auteurs, on ne s'adresse pas tellement à leurs parents, on ne les aide pas tellement à peut-être régler des problèmes qui devraient l'être pendant l'enfance.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez pervers, c'est que parfois, il y a une forme de bonne conscience qui est à l'origine de cette inaction. C'est-à-dire que, moi, ce qu'on me dit, c'est effectivement, les agresseurs sont souvent, en fait, des victimes plus, et parfois plus que les victimes, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est souvent des enfants qui ont été abusés eux-mêmes ou exposés à la pornographie, qui ont vu des violences conjugales, qui ont vu des viols et qui reproduisent parce qu'ils sont tellement traumatisés, en fait, qu'une manière de gérer le traumatisme, c'est de le rejouer. Et donc, en fait, ce que va dire l'éducation nationale, elle a plusieurs arguments pour ne jamais transférer les agresseurs dans d'autres endroits et pour, en fait, laisser les victimes partir, quoi, pour dire aux victimes de partir. Elle va dire, mais attendez, eux aussi sont victime, on peut pas les bouger, et puis on peut pas sanctionner un enfant qui est jeune, parce que moi je m'occupe, j'ai beaucoup investigué le primaire, et puis le fameux sacro-saint droit à la scolarité. Mais quel est le signal qu'on envoie à ces enfants quand on leur donne un, comme dit Muriel Salmona dans mon livre, un permis de violer?
Alors, Muriel Salmona,
psychiatre qui gère l'association Mémoire Traumatique et qui est voilà, une des grandes figures de la lutte contre les violences sexuelles en France.
Donc, des solutions éducatives à travers la scolarisation, mais zéro solution éducative pour traiter ce problème.
Mais c'est carrément...
Ça n'existe pas.
Alors, moi, j'emploie l'expression de vide. Alors, ce n'est pas un vide juridique au sens propre du terme, mais c'est une sorte de point aveugle, même dans les textes de l'éducation nationale, c'est-à-dire en primaire. Il faut que les faits soient répétés pour qu'on change un agresseur d'école. Ça veut dire que, en fait, il faut qu'un enfant ait reviolé. C'est ça que ça veut dire. En fait, concrètement, ça n'est pas présent dans les textes aujourd'hui. On ne peut pas changer un enfant d'école. Il y a un décret sur le harcèlement du 16 août 2023 qui dit texto qu'il faut que les faits soient répétés après la découverte et la mise en place de mesures éducatives. Donc souvent, les directeurs d'établissement et directrices d'établissement se cachent derrière ces textes-là pour ne rien faire. Et puis, ils se cachent derrière la justice. Parce qu'on va dire aux parents, portez plainte, alors que quand il s'agit d'enfants de moins de 13 ans qui sont agresseurs, on sait très bien qu'il n'y aura absolument aucune issue.
Non, mais ma question, Laurieux, c'était aussi des solutions éducatives, par exemple, pouvoir consulter un spécialiste, un psychologue, quelqu'un à qui on pourrait se confier en tant qu'enfant, quelqu'un qui aurait des gestes professionnels qui permettent de se sentir écouté et peut-être d'aller vers un semblant de réparation.
Alors pour ça, il faudrait qu'il y ait des signalements et des informations préoccupantes d'envoyer. Mais moi, dans les histoires que j'ai, c'est parfois ça va mettre 2 ans avant qu'il y ait une information préoccupante d'envoyer. Parce que si les familles des agresseurs ne les prennent pas en charge, qui le fait en fait? Et puis par ailleurs, dans l'éducation nationale, il y a un manque cruel, on le sait, d'infirmiers scolaires et d'infirmières scolaires, de médecins scolaires, de personnel qui pourrait aussi prendre en charge ces enfants. Voilà, le problème, il est multiple.
Oui, mais je voulais juste rebondir là-dessus parce que je pense que c'est vraiment une affaire systémique de comment prendre en charge ces problématiques-là. À Riaumont, c'est arrivé maintes fois les agressions sexuelles entre élèves et ça a été très très mal géré en fait. C'est-à-dire que ils savaient pas trop quoi faire, ça a absolument pas été signalé. On exclut 2-3 mois l'agresseur désigné et puis on le réintègre. Et donc cette histoire, elle est complètement systémique. C'est-à-dire que là, on parle de l'école publique. Moi, je vous parle d'un pensionnat catholique intégriste. Et en fait, on a les mêmes comportements. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, c'est un problème de société de pas vouloir prendre en charge ces problématiques-là. Les enseignants sont pas formés à recueillir ces paroles-là. En fait, les enseignants ne savent pas comment s'y prendre. Mais pour les violences physiques aussi, les violences, toutes ces professions qui sont au premier rang, qui peuvent voir un enfant quand on l'amène faire pipi, le déshabiller, donc voir s'il y a des coups, par exemple, eh ben, il y a quand même des dysfonctionnements extrêmement graves. Et je trouve que c'est vraiment transversal dans la société. C'est-à-dire que c'est la non-prise en compte de ces violences, mais à un niveau institutionnel.
Je voudrais qu'on termine sur un autre point. Finalement, la violence appelle la violence, elle est reproduite. Alors, dans une logique éducative, si on veut voir les choses par le bien, mais on sait aussi que les actes les plus violents, les plus sexuels, les pires, vont être métabolisés par des enfants qui vont les reproduire. Ça, c'est pensé, ça fait longtemps qu'on le sait en observant les comportements des uns et des autres. Et pourtant, cette pensée éducative, avant Alice Miller, avant la pédagogie noire, on a vécu comme ça des millénaires sans le voir. Comment c'est possible, Elisabeth Lucet? Éclairez-nous, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont réfléchi avant à cette reproduction du pire?
Alors, avant Alice Miller, on trouve dès l'Antiquité des auteurs pour expliquer que battre comme plâtre un enfant, ça n'est pas sans doute la meilleure façon d'en faire un citoyen et un adulte équilibré. Enfin, si on Il ne s'agit pas de remonter dans les temps les plus longs, mais dans l'Antiquité notamment, il y a des débats pour savoir si un enfant citoyen, on peut le traiter comme un esclave. Le problème, c'est de savoir, voilà, il y a ce qu'on s'autorise sur le corps des dominés, et est-ce qu'on peut faire la même chose sur un enfant qui va devenir un citoyen ? Et ces tensions entre le fait de savoir si pour faire de... Parce que la question sous-jacente, c'est l'ordre social et la façon dont on fait fonctionner une société. La question de savoir s'il faut un modèle autoritaire ou si il faut considérer les choses d'une manière plus protectrice envers ceux qui sont dominés, elle fait débat en fait dans de très nombreuses sociétés. Alors, les seuils de violence étaient sans doute plus acceptés dans l'Ancien Régime, mais ces débats-là, on les trouve en fait constamment. Alors, il y a un discours majoritaire et puis il y a aussi des voix dissonantes. Et aujourd'hui encore, si on a du mal à penser ces violences, c'est pas parce qu'il n'y a pas un progrès linéaire. On n'est pas passé du pater familias romain qui a le droit de vie et mort sur sa femme et ses enfants à une société qui serait devenue totalement irénique. Si on pense ça, on comprend pas pourquoi il y a encore de la maltraitance infantile, pourquoi il y a encore plus de 200 féminicides en France chaque année. Donc, ce qu'il faut penser, c'est comment ces tensions, en fait, elles entre le caractère acceptable ou pas, est légitime de la violence et le fait qu'on le condamne, entre le fait de vouloir maintenir l'ordre, je pense notamment aux émeutes de 2023 où le préfet de l'Hérault avait expliqué que la solution c'était deux claques et au lit concernant les émeutiers mineurs, c'est cette tentation de l'ordre, elle pense pas une société où il faut protéger effectivement les plus faibles, protéger les plus faibles quand ils sont eux-mêmes agresseurs ou penser ces mécanismes de domination. Et il y a toujours des mouvements de balancier avec différents acteurs, les parents, l'État, la société et le discours qu'elle porte. Et on a toujours cette idée, cette crainte que l'enfant roi va devenir, va faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais au 19e siècle, on trouve déjà le même type de discours. Donc, pour comprendre les choses, il ne faut pas se dire qu'on est dans un progrès linéaire. On est dans une société en tension avec des façons de considérer l'éducation et ce qu'elle doit produire. Et on ne peut pas se résoudre à un discours individualisant. Quand on explique que le problème des émeutes, c'est que les parents s'occupent pas assez de leurs enfants, c'est parce qu'on pense les choses sous le biais de la responsabilité individuelle. Or, en fait, ce qu'il faut penser, c'est à la fois le caractère systémique de ces violences, penser la violence au sein des foyers, la violence institutionnelle, et c'est aussi penser les façons dont on produit dans la société des conditions économiques, sociales et politiques pour faire advenir d'autres mécanismes.
Une ambition collective pour sortir des spirales de la violence. Merci beaucoup, Elisabeth Lucet. Je vais rappeler les titres des livres dont on a parlé. Dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir, publié au PUF en 2022. Aude Loriot, Table noire, violence sexuelle entre enfants, le phénomène massif que l'école ne veut pas voir. C'est publié chez Stock. Ixchel Delaporte, votre documentaire, je l'ai dit, est toujours visible sur le site d'Arte. Et puis, on peut lire la version livre qui est très riche avec des témoignages, des facsimilés de lettres d'enfants, des photos également publiées aux éditions du Rouergue, Les enfants martyrs de Riomont. Merci infiniment à toutes les trois.
Merci.
Merci.